Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Marie-Josée Croze. Elle est l'héroïne de la série internationale Mirage. Ça va démarrer sur France 2 lundi soir. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Ça va démarrer dans quelques minutes. Et puis dans Les Indispensables, une star planétaire qui se dévoile dans un documentaire sur Netflix avec Angèle Châtelier. Et puis l'exposition interactive Dreams à Paris, un jeu dans lequel Clément Le Saffre a pu créer tout ce qu'il voulait. Le journal de la culture, c'est maintenant avec vous, Hélène Manarino, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous et je voulais vous dire bonne fête.
Ah merci, pourquoi ?
Parce que c'est la journée mondiale de la radio.
Mais quel bonheur, bonne fête à vous aussi.
Ah, merci.
Hier c'était la Saint-Félix, la Saint-Philippe c'est le 3 mai, je dis ça de mémoire. On commence ce journal par les Molières de 2020, on connaît désormais le nom du maître de cérémonie, quoique je le connaissais un tout petit peu.
Et oui Philippe, puisque vous l'avez reçu il y a 15 jours à peine dans ce studio, il était là juste à côté de vous, c'est le comédien Bruno Solo.
Franchement, mais qui est l'idée de ce truc à la con là, tu veux bien me dire ?
Alors il faut que je dise, il nous l'a dit, mais j'ai dit, mais vas-y, on va l'annoncer. Il m'a dit non, on peut pas l'annoncer, c'est pas signé, je dois justement les voir tout à l'heure pour signer. Après notre direct, il allait au Molière, donc en fait il a signé.
Et voilà, vous avez gardé le secret,
bah,
on peut vous faire confiance,
c'est
bien. Alors après Zabou Bretman, Nicolas Bedos, Alex Vizorek, Alex Lutz, c'est à son tour donc de présider la 32e nuit des Molières en direct du Théâtre du Châtelet, diffusée sur France 2, ça sera au mois de mai. Et pour la première fois en 10 ans, elle sera diffusée en première partie de soirée. Alors Bruno Solo avait décliné la proposition l'an dernier car il ne se sentait pas légitime. Mais tout ça, c'est du passé. Il a déclaré « Depuis des années, je joue beaucoup, des pièces différentes, certaines radicales, d'autres plus légères. Cette légitimité, je l'ai peut-être acquise. » Alors il sera entouré de comédiens pour remettre les 19 récompenses destinées au monde du théâtre. 2 heures de cérémonie et Bruno Solo va s'entourer aussi de personnages. Pas de cérémonie sérieuse et bien évidemment, il a carte blanche.
On change de cérémonie après les Molières, les Césars. Des féministes appellent à voter contre Polanski au César.
Un appel lancé dans une lettre ouverte publiée par Le Parisien. Alors plusieurs organisations féministes appellent les membres de l'Académie des Césars à dire, je cite, « Non à la célébration d'un violeur qui silencie les victimes ». Je rappelle que le film « J'accuse » de Roman Polanski a reçu 12 nominations. Les associations rajoutent « Si violer est un art, donné à Polanski tous les Césars ». Puis elle rajoute en 2020, vous avez la responsabilité de prendre position et de refuser de décorer un violeur pédocriminel qui se pose en victime. En 2020, ne donnez pas raison à une Académie des Césars sexiste qui invisibilise encore trop les femmes au bénéfice des agresseurs. Les signataires invitent à se rallier à leur action prévue le jour des Césars, donc le 28 février prochain à 18h.
Sylvain Tesson est l'auteur francophone le plus lu en France en 2019.
Lauréat du prix Renaudot pour La Panthère des Neiges. Son livre est donc le plus vendu en 2019. Liste qui apparaît ce matin dans l'Express. Une liste où beaucoup de primés sont présents. On retrouve Jean-Paul Dubois, le Goncourt de cette année. Avec Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. En deuxième place donc. En troisième place, Michel Houellebecq avec Sérotonine. La quatrième place revient à Soif d'Amélie Nothomb. Et puis autre auteur présent dans ce classement, Karine Thuil. Nicolas Sarkozy,
ah oui,
eh oui,
c'est
7e place avec Passion, ou encore Laurent Binet.
Et puis le groupe The Killers est de retour. Ils avaient annoncé qu'ils faisaient une pause, Hélène.
J'en étais sûre.
Ouais.
J'attendais cette phrase. Alors non.
Elle
non,
était
non.
Pour vous. C'est votre fête aussi.
Alors ça y est, le groupe de rock américain a annoncé la sortie d'un nouvel album cette année, Imploding the Mirage.
Waouh.
Seulement. Eh oui, je me suis entraînée pour
ouais,
vous.
Je vois.
Seulement 2 ans après son dernier disque. Alors tout est encore assez flou, mais
oh.
On, évidemment, on va vous tenir au courant. Et on peut déjà vous dire que le groupe sera en concert à la Scène Musicale à Boulogne-Billancourt le 7 juillet prochain.
Et puis un pub classé monument historique à Liverpool.
Alors c'est ma préférée des Beatles, ça, celle-ci.
Ah oui, Twist and Shout.
On s'en fout.
Comment?
Voilà, je vous le dis. Alors c'est bien évidemment le pub des Beatles, le Philharmonic Dining Room, premier pub anglais de l'époque victorienne à être classé monument historique de première catégorie. Les Beatles y passaient beaucoup de temps. John Lennon avait déclaré que la pire chose dans le fait d'appartenir aux Beatles était de ne plus pouvoir boire une pinte au Phil. Ouais. Le Phil, c'est comme ça qu'on le surnomme. Paul McCartney avait donné un petit concert improvisé là-bas en 2018.
Ah génial, mais c'est pas comme le taverne dans laquelle il jouait, c'était juste un pub où il venait boire des coups.
Il venait boire des coups.
Et maintenant on peut plus toucher à rien, remarquez, comme le Flore avec Sartre et Beauvoir. Tout autre sujet désormais, on passe à la musique avec une histoire que l'on suit de très près, celle de Booba et Instagram.
Nos cœurs vont trop vite, on va se cracher.
On adore cette histoire.
Ouais.
Eh oui. Après avoir été banni d'Instagram pour non-respect des règles, après avoir migré vers Twitter avec son compte qu'il nomme le fucking Bluebird, Booba est de retour sur Instagram, Booba Official. Voilà, compte officiel. Alors, il n'est pas géré par le rappeur lui-même, mais par une agence artistique.
D'accord.
Et il a déjà plus de 160 000 abonnés pour uniquement 3 publications.
Ouais.
Voilà, alors normalement, il n'y a plus de clash. Hein.
D'accord, ouais, normalement, mais après, ça va revenir.
Bah, je ne sais pas, il faut lui demander si Booba
pas,
nous écoute.
S'il nous écoute, déjà, sachez que vous êtes invité, monsieur Booba.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Philippe, on accueille tout de suite Marie-Josée Croze.
Bonjour Marie-Josée Croze.
Bonjour Philippe.
Vous êtes comédienne canadienne, désormais française, révélée au public mondial, je pèse mes mots, par le film Les Invasions Barbares de Denis Arcand. Film qui vous a valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, excusez du peu. Je vais citer également Ne le dis à personne de Guillaume Canet, Le Scaphandre et le Papillon et Munich de Spielberg. Excusez du peu, bis. Et vous voici pour la première fois dans une série avec un rôle récurrent. C'est une série ambitieuse, internationale. Ça s'appelle Mirage. Ça se passe à Abu Dhabi, mais il y a 14 nationalités sur le tournage. Ça commence sur France 2 lundi. 6 épisodes. Qui éclaire votre personnage?
Oui, c'est lundi à 9h.
21h.
Oui. Alors Claire, c'est une femme qui a vécu des choses très difficiles parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie dans un accident en Thaïlande.
Ouais.
Lors du tsunami. Et l'homme de sa vie a disparu, donc on a cru qu'il était mort. Elle rentre donc à Paris et s'aperçoit qu'elle est enceinte. La série commence lorsqu'elle va reconstruire sa vie à Abu Dhabi avec son nouveau mari et son fils qui est maintenant adolescent.
Elle reconstruit sa vie, en général, quand on pense ça, c'est qu'elle fut son mari. Pas du tout, elle a un vrai métier, et un métier sacrément important. Et ça compte beaucoup dans cette histoire, parce qu'il y a une histoire d'espionnage. C'est quoi son job?
Elle travaille dans la sécurité informatique et cybersécurité. Donc, elle a été aussi tenue responsable de l'explosion d'une centrale nucléaire au Kazakhstan. Donc, en plus d'avoir perdu l'homme de sa vie, elle a eu une déconvenue dans son métier. Et elle a tout d'un coup, soudainement, une offre qui lui permet de reconstruire, de retravailler dans son domaine à Abu Dhabi. Et donc, on va la suivre dans cette installation, dans ce nouveau pays et dans cette nouvelle vie.
Déjà, c'est pas facile à comprendre. On va entendre la bande-annonce, ça va être encore moins facile. Et on va encore avoir plein de questions parce que c'est justement toutes ces histoires, et c'est ça qui est passionnant dans cette série, sont enchevêtrées. Bande-annonce.
Écoute, tu vas jamais me croire. J'ai vu Gabriel, ici à Abu Dhabi, dans un bar de la Sunset Tower.
Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Claire, il est mort.
Gabriel! Il faut que tu saches à quel point cette mission est dangereuse. En fait, leur logiciel espion devait leur permettre de contourner ton système de sauvegarde et de saboter la sortie.
Si on libère le virus trop tôt, ça risque de mettre en péril toute l'opération.
Mais t'es qui, Gabriel? Et pour qui tu bosses, en fait?
Il y a une histoire d'espionnage, ça vous a fait peur? Parce qu'elle travaille sur des sujets sensibles, la cybersécurité et la sécurité, mais aussi cette quête amoureuse et le fait qu'elle retrouve son ex, qu'elle croit mort, à voir avec l'espionnage.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous pouvez dire, sans trop dire, tout en disant?
C'est compliqué, mais on va dire que c'est un mélange entre un concours de circonstances et quelque chose qu'on va découvrir dans la série. Parce que c'est... ça se dénoue autour de au milieu, on va dire, vers l'épisode 3. 4.
Alors ça tombe bien parce que moi j'ai vu que les deux premiers épisodes sur les 6, donc je sais pas ce qui va se passer.
Ouais.
Mais en tout cas déjà là j'étais assez pris. Et puis il y a une quête amoureuse puisqu'elle se retrouve dans la même ville avec les deux hommes de sa vie.
Oui, c'est-à-dire que le mari avec qui elle compte reconstruire sa vie, c'est un homme qu'elle... je me suis raconté ça, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Je pense qu'il l'a rencontré à un moment de sa vie où elle était complètement démolie. Et il a été l'homme de la Providence, quoi. Il l'a complètement soutenu, aidé. Il y a un conflit, comme on dit, de loyauté envers cet homme-là. Et je pense que le véritable amour, c'est l'espion.
Sauf que c'est encore plus tordu que ça, puisqu'elle découvre que son mari l'a manipulée. Puisque en fait, il s'est intéressé à elle parce qu'il était un peu espion.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire, après, elle devra être analysée à l'aune des nouvelles données qu'elle a à un moment donné de l'histoire. Mais oui, en effet, donc elle va d'un désespoir à l'autre, cette femme. Donc
Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que c'est rocambolesque, sauf que c'est parfaitement réaliste. J'ai vu un documentaire sur Arte il y a une semaine qui racontait exactement ça. Il y avait des agents d'Allemagne de l'Est, notamment un agent qui avait séduit une secrétaire de l'ambassade des États-Unis à Berlin. Il avait fait sa vie avec elle, était folle, amoureuse de ce type.
Ouais.
Et en fait, il s'en foutait. Il faisait des photocopies de documents parce qu'elle avait accès à des documents militaires secrets des Américains.
Oui.
Et une fois qu'il a été démasqué, il l'a laissé tomber comme une vieille chaussette, évidemment. Et la femme a raté toute sa vie. Elle a avorté pour lui. Elle avait 80 ans. Elle était en larmes au bord d'une plage en disant « Mais comment j'ai pu tomber amoureux de ce type qui était génial ?»
Oui.
Elle avait rencontré le prince charmant.
L'homme parfait.
Il était parfait, justement, parce qu'il s'en foutait complètement.
Voilà. Mais là, c'est un peu différent quand même parce que là, il y a quand même, c'est plus compliqué que ça, on va dire. C'est pas aussi tranché.
Ah bah, j'ai vu deux épisodes, moi.
Oui, mais pour que ce soit intéressant, je crois que voilà, vous allez découvrir qu'il y a quand même une histoire réelle.
Vous avez dit le mot intéressant, ça m'intéresse beaucoup. En 30 ans de carrière, Marie-Josée Croze, vous avez toujours refusé les rôles récurrents, les séries. Pourquoi cette fois vous avez accepté ?
Non, j'ai pas toujours refusé les rôles récurrents. C'est aussi, je pense, un hasard. D'ailleurs, que j'ai fait beaucoup de cinéma. À une époque, le cinéma était très 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 fort et robuste, on va dire, et il est devenu plus compliqué à monter ces dernières années. La télé a pris beaucoup d'ampleur, c'est-à-dire qu'il y a de très bons auteurs, il y a de très bons réalisateurs qui vont en télé. Il y a Audiard, je crois, qui réalise le Bureau des légendes.
Oui.
Donc à l'origine, c'était aussi un super réalisateur de cinéma dont j'oublie le nom. Là.
Qui a fait le Bureau des légendes. Pas Clapiche, celui qui a fait Un monde sans pitié. Ça va me revenir à l'instant. Éric Rochant.
Éric Rochant, bravo. Et donc il y a de plus en plus de gens très 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 talentueux qui vont dans ces trucs-là.
Et je l'ai dit, c'est une série internationale, 14 nationalités, il y a des Syriens, des Libanais, des Sud-Africains, il y a un sacré casting.
Oui.
Vous connaissez les noms ?
Il y a Clive Standen qui joue l'espion,
ensuite, qui est dans Vikings.
Il
y a un Allemand.
Votre mari allemand. Mon mari allemand.
Il s'appelle ?
Hannes.
D'accord. Vous oubliez son nom de famille.
Oui.
Yannick. Je l'avais noté. Il y a Philippine Leroy-Beaulieu qui est française.
Agathe
Coltès qu'on voit dans 10%.
Qui ?
Agathe Coltès qui est dans 10%. J'ai noté ça dans le cast.
Ah non,
non.
Je crois pas.
Bon, d'accord. Bah, alors, il y a une erreur sur le dossier presse.
Et puis Laurent Bateau. Et puis il y a Fitoussi, Grégory Fitoussi. Il y a Thomas Chomel qui joue mon fils.
Ouais.
Donc il y a beaucoup d'acteurs autour quand même.
Et le réalisateur, c'est un Québécois, Louis Choquette.
Oui.
Qui avait fait Mafiosa, Versailles. Vous le connaissiez avant ou pas ?
Non, je ne le connaissais pas.
Voilà, comme quoi les Québécois ne se connaissent pas tous entre eux.
Non.
Vous restez avec nous.
Oui.
Marie-Josée Croze, on vous a vu dans Les Invasions Barbares, Munich, Ne le dit à personne ou encore dans Le Scaphandre et le Papillon. Mais on ne vous a pas vu dans votre propre rôle. Eh bien, on va corriger ça dans quelques minutes grâce à notre spécialiste des portraits inattendus. J'ai nommé Hélène Manarino. À tout de suite sur Europe 1.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et comme promis, c'est le portrait inattendu d'Hélène Manarino, Philippe Vandel.
Marie-Josée Croze, vous connaissez Hélène Manarino ?
Non.
Oh là là.
Je vous découvre. Enchantée ce matin, enchantée.
Bonjour Marie-Josée.
Vous la connaissiez ?
Bien sûr, quand même.
Et vous l'avez déjà vu en vrai ou pas ?
Oui.
C'est un sacré numéro. Hein.
Ah bon, je sais.
Les deux sont un sacré numéro, je dois dire.
Eh bien, très bien,
Hélène,
on va bien s'entendre.
Hélène, on vous écoute.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Ça a été une longue enquête,
oui.
Marie-Jo. Eh oui, je commence direct par votre surnom. Parce que votre plus grand confident, celui qui sait tout de vous, c'est votre chat. Oscar, mais je n'ai pas votre pouvoir, celui de parler au chat. Oscar, avec qui vous prenez des thés régulièrement dans Paris, vous pouvez demander conseil aussi telle décision.
Arrêtez. Moi, j'ai un chat, je lui parle, je lui dis ça va bien, Poluche, mais je lui demande pas de conseil. Vous lui demandez quoi comme conseil à votre chat ?
Si, je lui demande par exemple, là, je vais tourner à l'étranger, si elle a envie de venir. Et je peux lire dans son œil si elle a envie de venir ou pas. Si c'est par exemple, je lui demande si elle veut sortir et elle me répond quoi.
Ouais.
Et je la mets dans un sac et on part.
Oui, mais c'est pas un conseil ça.
C'est pas un conseil. Oui, non, on n'ira peut-être pas jusqu'au conseil, par exemple.
Mais quand même déjà.
C'est un chat, en tout cas. Donc c'est une chatte qui sent les gens. Voilà, il y a des gens qu'elle aime, qu'elle n'aime pas.
C'est vrai.
Voilà, donc elle a ce petit pouvoir quand même que vous avez aussi. Alors j'ai quand même réussi à la convaincre de me parler et on va pouvoir dévoiler qui se cache derrière celle qui n'a peur de rien ni de personne, qui est capable de dire à un réalisateur très connu, t'es nul. pas de hiérarchie sociale chez vous, Marie-Josée Croze. Le droit, la parité, la morale avant tout. Ce qui vous agace, les acteurs qui jouent mal, et vous leur dites sans filtre, évidemment, vous êtes entière. Vous vous investissez toujours à 400% dans vos rôles. Vous pouvez vous raser la tête, vous teindre les cheveux, prendre 15 kilos, même si vous pensez que c'est nécessaire sans qu'on vous le demande. Vous avez un instinct hors du commun, un sixième sens. Vous savez ce qu'il faut faire ou pas. Et vous pensez aussi que les gens sont fous. Et vous dites d'ailleurs très souvent cette phrase « les gens sont dingues ».
Ouais, c'est vrai qu'alors vous êtes normal, non, franchement.
Mais alors, moi, je pense que oui.
Les gens sont dingues. Et ce qui peut vous mettre très, très en colère, et on va le dire ce matin parce que ça, oui, ça fait du bien de le dire, oui, ce sont les cons.
Ah oui, mon Dieu. Ah,
vous,
oui,
détestez,
ah,
les,
oui,
cons.
C'est vrai.
Mais ça se manifeste comment?
Oh ben, je sais pas. Non, non, mais les cons, c'est les gens qui travaillent mal ou qui sont pas à leur place,
ah ouais,
par exemple.
Quelqu'un
qui est pas à sa place.
J'espère que je suis à ma place, mais moi,
toi,
pas.
Ta,
oui,
place.
Ouais.
Bah oui, moi aussi. Oui, ça va, ouais. Bon, je continue.
Attends, t'as pas fini.
Non, j'ai pas fini. Vous aimez observer les gens et vous êtes capable aussi de les mimer à la perfection. Vous chopez toutes les gestuelles. Mmh. Mais surtout, quand même, il y a des choses qui vous font du bien, vraiment du bien. Et ça commence en musique.
Should I stay or should I go now?
Ah merde. Ça, c'est
morceau,
la question qu'elle pose à son chat.
Un petit morceau des Clash pour,
ouais,
commencer.
J'adore.
Alors, tous les matins, vous avez vos petits rituels. Vous faites votre grande revue de presse nationale et internationale. Vous êtes incollable sur l'actualité et sur la politique aussi.
Wow.
Vient ensuite votre yoga pour vous détendre. Alors, Marie-Josée Croze, vous êtes aussi une passionnée de Paris, cette ville qui continue de vous émerveiller depuis tant d'années. Paris, ses surprises, ses petits coins cachés. Vous êtes également une très bonne cuisinière, végétarienne.
Pourquoi?
Eh ben oui, c'est ce qu'on dit de vous.
Ouais.
Mais vous autorisez parfois un petit bout de porc, quand même.
Ça, c'est vrai.
Mais
c'est
ce
vrai
que vous pouvez...
Oui, c'est le seul animal que je mange.
Ouais.
Ce que,
oui,
vous pouvez déguster tous les jours sans modération, ce sont les frites. Et on,
non,
parle,
ah,
de passion.
Oui,
c'est pas vrai.
Je sais qui vous a donné toutes ces infos.
Non, mais c'est pas possible. Vous mangez pas des frites tous les jours.
J'adore,
vous avez,
les frites.
Un...
Ah, mais je suis,
vous,
dingue,
avez une allure de jeune fille.
Oui, mais je sais, j'adore les frites.
Ouais, mais elle passe où?
Je sais pas.
Mais
j'ai
rien. C'est pas possible, c'est pas juste.
Bonne vivante, vous aimez vous mettre à table, boire, raconter quelques bêtises, enchaîner les films comme une vraie cinéphile, revoir par exemple La Mouche. Et il y en a un qui fait mouche chez vous d'ailleurs, mais dans le bon sens. On parlait de votre chat, votre héros, mais il y en a un autre dont vous êtes fan, vous l'adorez. C'est même plus que ça, c'est Michel Houellebecq.
Ah oui,
ah oui.
Ah, vraiment.
Vous l'aimez beaucoup.
Oui, oui,
vous
beaucoup
le connaissez?
Non, non. Je le connais pas.
Et vous souhaitez me le rencontrer,
pas,
ou pas?
Il aime pas les chats, par exemple. Donc,
ouais,
ça, c'est le point qu'on a pas en commun, lui,
d'accord,
et moi, malheureusement. Donc,
mais vous souhaitez le rencontrer,
le,
ou au contraire, parfois,
ben,
on veut pas rencontrer ses idoles,
oui,
pour ne pas détruire un mythe?
En fait, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire que moi, je crois au hasard. Donc,
ouais,
si un jour je devais le rencontrer, je crois que ça se présentera ou pas. Mais je veux pas faire une démarche pour le rencontrer. Mais en effet, je connais bien son œuvre et il me fait beaucoup rire. Et je lis toutes les interviews, je regarde toutes les interviews avec lui.
Ouais.
Je trouve admirable.
Et il est très,
oui,
très,
oui,
drôle en interview.
Oui.
Alors, je suis en charge aussi ce matin de percer un mystère sur quelque chose de très précis. C'est vos spectacles de musical avec Virginie Ledoyen. Vous devez travailler sur le Périnée.
Quoi?
Alors, écoutez,
c'est quoi
ça,
je vous dis cette phrase telle quelle, musical Périnée, et je dois avoir votre explication ce matin.
C'est quoi?
Je ne me souviens plus de ça.
Non.
C'était il
n'y
a pas longtemps en plus, c'était une,
c'est
blague.
Vrai.
Je ne sais plus ce que c'était, mais je ne pourrais pas vous la raconter. Ça nous,
bon,
a fait rire à cette époque.
Mais vous avez fait un spectacle.
Je crois qu'on était. Oh, non, on était après un spectacle de théâtre. Il y avait la fête de fin de ce spectacle.
Ouais.
On était en boîte de nuit, et moi je déteste ça, et Virginie aussi. Et je sais pas, je crois qu'on a dû faire semblant de s'amuser. Puis on a dit, bah, tiens, on va faire des exercices. Je sais pas, je crois que
c'était ça,
quelque chose comme
Périnée.
Ça. Ouais.
Alors,
oui,
vous avez déclaré...
dans une boîte de nuit, dire, bah, tiens,
c'est
on va faire
un spectacle. Alors, vous avez déclaré, on ne me fait jamais de compliments. On me dit que je suis folle et je le prends bien. Il n'y a pas de grands esprits sans grain de folie, Marie-Josée Croze.
Qui dit ça?
Merci, Hélène.
C'est moi qui vous le dis.
C'est elle qui nous dit. C'était une phrase d'Hélène Arino.
Mais oui, ça aussi. Donc
bah
vous
n'êtes,
oui, pas loin, vous êtes cousin-cousine peut-être.
Ah,
maintenant,
franchement...
j'ai repris la phrase de quelqu'un, mais je le pense de vous, je vous le dis ce matin.
Franchement,
voilà.
Mais je suis d'accord avec vous, parce que moi, la première fois que j'ai vu Hélène Manarino, aussitôt, j'ai pensé à Nietzsche.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Culture Média et le programme continue dans quelques minutes avec votre invité ce matin, Philippe, l'actrice Marie-Josée Croze. Et on va être rejoint par Angèle Châtelier qui nous parlera du documentaire sur la chanteuse Taylor Swift.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Comment passer d'une jeune star de la country à icône féministe? Eh bien, explication avec Angèle Châtelier pour la suite de Culture Média. Philippe, mais ce n'est pas la seule autour de la table. Il y a aussi Clément Le Saffre et votre invité ce jeudi, Marie-Josée Croze.
Vous êtes à l'affiche de Mirage, grande série ambitieuse internationale, je pèse mes mots, qui va démarrer sur France 2 lundi à 21h. Vous allez tourner dans quelle langue? Moi, dans l'épisode que j'ai vu, tout est en français, en arabe sous-titré, mais je sais que vous allez tourner dans plusieurs langues.
Non, la série a été tournée en anglais. anglais.
Ouais.
Et ensuite, tout le monde a doublé. On a tous doublé la série de façon comme on double les films.
D'accord.
Donc moi, je me suis doublée en français. Mais alors, j'invite les gens à la regarder en version originale.
Ah oui, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on pourra choisir oui. sur France 2 comme sur Canal+. Ça se fait déjà sur Canal.
Voilà,
on peut choisir.
On choisit VO et on a les sous-titres en français. Et comme ça, on entend les vraies voix des gens.
Ouais.
Et donc on entend les Allemands en allemand, les Français en français. Voilà.
Ouais, Nathalie Biancoli, qui est la directrice de la fiction internationale de France Télévisions, a dit cette jolie phrase. Elle a dit « Je ne veux absolument pas faire d'euro-pudding ». Voilà, le gros truc qui étouffe. Donc voilà. Vous avez tourné au Maroc, mais surtout à Abu Dhabi. Mm-hmm. C'est comment Abu Dhabi ? Moi, il y a des images qui m'ont complètement bluffé.
Oui, c'est très beau. C'est très beau.
C'est pas ça que je pensais. Je vais vous dire ce qui m'a vraiment complètement bluffé à un moment donné. Votre fils qui a 15 ans se fait arrêter par la police. La police, ils sont en Maserati.
Oui, c'est vrai.
Non, mais nous, ils sont en Lada.
Non, mais ils sont habillés aussi. Ils ont des costumes.
Oui, oui.
C'est assez beau. Les hommes sont tout en blanc. Les femmes.
Je sais, mais j'ai le moyen de m'habiller en blanc alors que j'ai pas les moyens d'avoir une Maserati.
Oui,
vous imaginez.
Très belles voitures.
Si vous allez un jour dans un commissariat en France, vous allez voir avec la Maserati, ils achètent tout le parc automobile de l'île de France.
Il y a beaucoup d'argent.
Et il y a une séquence assez étonnante. Vous êtes avec votre mari à Abu Dhabi, et il a besoin, pour acheter de l'alcool, de votre signature.
Oui, parce
c'est
que
quoi cette histoire ?
C'est parce que moi, dans l'histoire, c'est moi qui suis invitée dans ce pays, donc je pense que j'en déduis que c'est ça. C'est pas, donc c'était une façon peut-être de dire, c'est pas juste les hommes ou les femmes.
D'accord.
Genre, là, pour le coup, c'est une femme qui est engagée, qui est embauchée, et elle amène toute sa famille, donc elle en est responsable. Donc si son mari veut boire, il a besoin de son autorisation.
Voilà.
C'est marrant.
J'ai une pensée émue pour Madame Houellebecq. tout à fait autre chose. Angèle Châtelier, on va parler de musique. Elle a vendu des millions d'albums. C'est la chanteuse Taylor Swift qui se dévoile dans un documentaire intime, vraiment disponible sur Netflix.
Exactement. Alors Taylor Swift, elle fait partie des stars un peu clivantes. On l'adore ou on la déteste. Taylor Swift a eu tellement de récompenses du milieu de l'industrie musicale qu'une page entière sur Wikipédia est consacrée à tous ses prix.
Oh, dis donc.
10 Grammys, des MTV Awards, mais aussi des prix de country parce qu'elle vient de là. Elle publie à l'âge de 16 ans son premier album qu'elle a écrit et composé elle-même.
Je ne savais pas qu'elle avait commencé par la country, j'adore.
Elle a commencé par la country
à 16 ans.
À 16 ans.
Wow.
Et c'est notamment pour tout ça qu'à seulement 30 ans, Taylor Swift peut se targuer d'avoir son documentaire consacré sur Netflix. Et qu'on l'aime ou qu'on la déteste, justement, je vous le conseille vivement. Parce qu'on comprend ce qu'est le quotidien d'une pop star qui se sent parfois très seule.
That was it.
Et voilà, ma vie n'avait jamais été meilleure. J'avais gagné l'album de l'année aux Grammys une seconde fois, ce que je ne croyais pas être possible. Je me souviens avoir pensé « Oh mon Dieu, c'est ce que tu voulais !» Tu arrives au sommet et tu te dis « Incroyable !» Et maintenant, je n'avais pas de partenaire avec qui j'avais grimpé, que je pouvais embrasser. Je n'avais personne à qui parler, qui pouvait comprendre ce que je vivais. Vous voyez, j'avais ma mère, mais je me demandais « Est-ce que je devrais pas avoir quelqu'un à appeler là ?»
Taylor Swift, certains la connaissent aussi pour sa relation tumultueuse avec le rappeur Kanye West en 2009, alors qu'elle remporte le prix du meilleur clip au MTV Video Music Awards. Kanye West arrive sur scène, la coupe, lui prend le micro et dit que ce prix devait revenir à Beyoncé.
C'était son mec ? Ils étaient encore ensemble ?
Non, ils n'ont jamais été ensemble. Il est venu lui enlever le micro. Alors on entend les huées du public. À ce moment-là, Taylor Swift pense que c'est contre elle. S'en sont suivies des années de disputes par médias et réseaux sociaux interposés que je vous épargne. Mais si elle a été vivement critiquée à cause de ces différends, Taylor Swift n'en reste pas moins une artiste, une vraie. En témoignent les nombreux passages du documentaire où on voit la pop star être littéralement une machine à tubes.
J'ai cette idée. Vas-y, rejoue-le. Ok, j'ai une partie de couplet. Keeps me awake, the look on your face, the moment you heard the news. You're screaming inside, frozen in time, you did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked, the wrong ones think they're right.
Si elle a été critiquée, c'est aussi parce que pendant longtemps, Taylor Swift, aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a mis du temps avant de prendre position pour tel ou tel parti politique. Beaucoup lui ont reproché le fait qu'elle aurait dû prendre parti contre Trump avant son élection.
Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait.
Pas vraiment, elle s'était contentée de dire « allez voter ». Mais dans ce documentaire, on découvre qu'elle a aussi été muselée par les personnes qui l'entourent. Dévoiler ses opinions politiques, c'était prendre le risque de diviser son public. Rapidement, elle a voulu changer les choses en prenant la parole, notamment en affichant son soutien à la communauté LGBT, comme dans son titre « Welcome to New York » où elle évoque le multiculturalisme de la ville. Longtemps appelée la petite fille de l'Amérique, ce n'est pas pour rien que ce documentaire sur Taylor Swift s'appelle Miss Americana. C'est sur Netflix et elle reste l'une des pop stars les plus influentes de la décennie.
Merci beaucoup Angèle. Marie-Josée Croze, une réaction ?
Oui, alors ça ressemble à quoi ce documentaire ? C'est un peu comme celui d'Amy Winehouse
c'est un peu ça. Ouais. Il y a aussi des vidéos qu'elle elle se prend beaucoup en vidéo quand elle compose ses chansons. Donc on la voit avec son iPhone faire ses propres chansons.
Ah
c'est
ouais, assez intéressant. Oui, oui.
Et on la voit chez elle ?
Et on la voit chez elle, on la voit en studio, c'est incroyable.
Et on la voit toute seule ?
Et on la voit toute seule.
Qui se morfond chez elle, sans mec ?
Avec son chat.
Ça
elle,
vous plaît.
Elle a un chat. Elle a un chat bah voilà. Qui marche sur son piano.
J'ai toujours aimé cette fille.
C'est vrai. Et vous avez un chat, Angèle ?
Bah oui, oui. Et je l'aime comme vous.
Vous aimez votre chat comme vous m'aimez moi.
Voilà. Non mais c'est pas possible, c'est un complot. Ouais, c'est un gang.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce matin, vous recevez Philippe, l'actrice Marie-Josée Croze. Et vous n'êtes pas que tous les deux, puisqu'il y a aussi Angèle Châtelier et Clément Le Saffre qui vient nous parler d'une exposition interactive.
Oui, dans nos indispensables du jour. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Une fois n'est pas coutume, habituellement, vous nous parlez de jeux vidéo, mais là, pas du tout, vous nous parlez d'une expo. Enfin bon, une expo sur les jeux vidéo.
Ouais, quand même, je suis resté dans mon domaine, mais c'est vrai que c'est pas courant, même si le jeu vidéo est parfois qualifié de 10e art dans la classification. Il ne s'expose que très rarement. C'est le cas en ce moment à Paris avec l'exposition interactive Dreams. Alors, Dreams, c'est quoi ? C'est un jeu vidéo qui sort demain en France sur PS4. C'est un jeu pour créer tout ce qu'on veut, absolument tout, un peu comme de la pâte à modeler, mais en version jeu vidéo. On peut littéralement tout faire, comme l'a expliqué Christophe Villedieu. C'est l'un des créateurs de Dreams.
L'avantage, c'est que c'est un outil qui est très polyvalent en termes de graphisme. Donc, on peut vraiment avoir des styles à la fois impressionnistes, à la fois très réalistes ou complètement fantaisistes. On a aussi des animateurs qui utilisent Dream pour faire des courts-métrages et des petits sketchs. Il y a des gens qui font des animations épisodiques, comme des cartoons. On a des gens qui ont fait des albums audio entièrement dans Dream, avec les instruments qu'on a proposés, qui les ont mis sur Spotify.
Alors, comment ça marche Dream ? Ah oui. C'est bien, en fait, dans le jeu, il y a tout plein d'outils, d'éléments préconçus pour donner vie à son monde. Par exemple, vous avez des modèles de personnages, d'arbres, de bâtiments, de l'eau, de la lave, des plateformes, aussi des compositions musicales déjà faites, mais que vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez refaire les personnages, refaire les styles, refaire la musique. Et une fois que c'est prêt, vous jouez à votre propre jeu. Alors, ça permet de laisser libre cours à sa créativité, d'où cette exposition.
Alors, on y vient, mais qu'est-ce qu'on voit d'abord dans cette expo ?
Ça se passe sous une verrière. Il y a une dizaine d'écrans accrochés au mur, tous encadrés comme des tableaux, avec une manette pour jouer. Et sur chaque écran, il y a une expérience qui a été créée par des artistes spécialement pour l'occasion, des graffeurs, des dessinateurs, des musiciens aussi. Ils se sont fait aider par les équipes de Dreams, évidemment, pour réaliser leur propre jeu en apportant eux, leur univers visuel ou musical. Ça donne plein d'expériences très différentes avec un point commun quand même, c'est des jeux qui procurent de l'émotion.
Le jeu vidéo a énormément évolué. Quand on était ado, dans les années 90, il n'y avait pas d'émotion. C'était un petit bonhomme, il gagnait, il perdait, et puis tu recommençais, et puis tu étais énervé ou tu étais content, mais c'était tout. Là, maintenant, il y a des jeux où tu pleures. C'est comme un film. Maintenant, tu cherches un jeu et tu joues à un jeu aussi pour de l'émotion.
Attendez, juste un mot, vous avez déjà pleuré en jouant aux jeux vidéo ?
Moi, ça m'est arrivé, ouais.
C'est pas vrai, c'était quel jeu ?
C'était la fin, alors je vais pas révéler la fin, mais c'était la fin de The Last of Us.
Et vous étiez adulte déjà ?
J'étais,
c'était pas des pleurs d'enfant, ça que je veux dire.
J'étais ado, ouais, j'avais 17-18 ans. Ouais.
Et ça vous a ému au point
ça m'a absolument ému, parce que le scénario...
Vous avez pleuré pourquoi ? Parce que votre personnage était mort ?
Alors, pas forcément pour ça, mais parce qu'il y avait une séparation dans le jeu entre deux personnages clés, qui étaient, c'était un moment très fort.
Voilà.
Mais c'est des scénarios qui sont très construits.
Et alors, c'est quoi ? Dès que vous avez prononcé le mot séparation, ça a fait rire Angèle Châtelier, mais c'est pas possible.
Je me disais, il est comme nous.
Mais Angèle, vous êtes incorrigible. Alors, on revient à l'expo. On revient à l'expo, Clément.
Ouais, donc dans cette expo, donc on peut voir tout un tas de choses très différentes. Donc il y a par exemple un court-métrage animé, c'est-à-dire qui a été créé avec les outils du jeu vidéo, mais il y a pas, on ne joue pas, juste on se contente de regarder. Il y a aussi un jeu, pour le coup, très jouissif, très enfantin, qui nous ramène en enfance, où on incarne un pseudo Godzilla en peluche, donc tout mignon, et on doit détruire une ville en carton-pâte, donc c'est hyper jouissif. Il y a une exploration aussi sous-marine qui est pour le coup très apaisante, avec des notes de piano très lentes. Un jeu de labyrinthe très stylisé aussi, mais aussi très angoissant. Moi, j'étais un peu recroquevillé sur moi-même en y jouant. Et en fait, cette expo, c'est l'aboutissement de ce que peut offrir le jeu vidéo en tant qu'art.
J'adore le Godzilla en peluche. C'est à voir où et quand?
Alors, l'expo interactive Dream, c'est donc à voir à Paris, dans le Marais. C'est dans un espace privé situé aux 3 rues Portefoin. L'entrée est gratuite. Et précision importante, l'expo, elle est éphémère. Elle se tient jusqu'à dimanche uniquement. Après, il faudra acheter Dreams pour découvrir toutes ces œuvres dans le jeu. Parce que ce que les gens créent dans le jeu, quand vous créez votre niveau, vous le rendez accessible à tout le monde et tout le monde peut jouer à votre jeu.
Oui, mais là, vous parlez d'artistes. Mais nous, pour s'amuser, on n'a pas autant de talent qu'eux. Comment on fait, nous?
On peut quand même s'amuser, je vous rassure, le jeu n'est pas réservé aux artistes. Même si le seul fait, je vous donne des boutons comme moi ou que vous dessinez des bonhommes avec des traits encore comme moi, vous pouvez devenir un artiste sur Dreams.
Si je te donne un violon maintenant, tu vas trouver ça très joli, c'est très beau, mais tu ne sauras pas jouer. On n'a clairement pas eu envie de vous donner un violon dans les mains avec cette espèce d'appréhension brutale. Tout est accessible dans Dream. Pour la sortie du jeu, on a fait des tonnes et des tonnes de tutoriaux qui sont justement là pour un petit peu désacraliser ce genre de difficultés.
Voilà, donc si vous êtes à Paris, vous pouvez aller voir l'Expo Dream, ça vous donnera des idées. Sinon, vous allez acheter le jeu, il sort demain, c'est sur PS4 et ça coûte 40 euros.
Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. La musique de la boum, et il y a une fille qui met sa main sur son cœur et qui danse sur sa chaise, Angèle Châtelier. Mais c'est pas possible, cette personne.
Aussi,
c'est vrai?
Oui, moi j'avais pas la main sur le cœur. Mais
vous avez dansé aussi.
Un peu comme ça.
Vous étiez
un
à fond.
Peu, un peu.
La boum, c'est,
autant,
un, c'est un peu votre
loin.
Cam, la boum?
C'est beau, la boum. Ouais, c'est un beau film.
C'est beau. Ouais. Je suis avec 3 jeunes femmes qui aiment les chats. Et une seule n'est pas seule. Et il faut trouver laquelle. Tiens, je vais lui passer la parole.
Merci Marie-Josée Croze. Reste avec nous jusqu'à 11h dans Culture Média. Philippe, alors ne bougez pas sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Suite et fin de Culture Média aujourd'hui, Philippe, vous êtes accompagné par Angèle Châtelier, Clément Le Saffre et par Marie-Josée Croze, que vous allez voir sur France 2 lundi prochain à 21h05 dans la série internationale Mirage.
Vous disiez que vous regardiez peu de séries parce que vous aviez peur que ce soit chronophage, Marie-Josée Croze.
Ben oui.
Est-ce que vous avez changé d'avis?
Ils vont pas tout faire. Tout prend beaucoup de temps, donc
bien sûr,
faut choisir ce qu'on fait. Il se trouve que j'ai découvert quelques séries très très bien, donc et c'était extrêmement chronophage. C'est-à-dire que, par exemple, Ozark, la série Ozark, je l'ai regardée en, je sais pas, c'était 10 épisodes, je crois. J'ai regardé en 3 jours, 2 ou 3 jours. Je me réveillais la nuit, je mettais un autre épisode. Enfin voilà. Donc je suis très intense. Donc faut pas mettre une série super bien sous le nez parce que je me vautre dedans.
Et donc vous interdisez?
Un peu, oui. J'essaie de pas provoquer le diable. Donc parce qu'il faut lire, il faut faire autre chose, quoi. Il faut pas faire que ça. Donc, c'est les jeux vidéo, justement, il en parlait tout à l'heure. J'ai jamais joué à ça parce que je sais que si voilà, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas que j'y mette le nez.
Je vois très très bien. Moi, j'ai jamais passé le permis moto pour cette raison, parce que je serais incapable de rouler
de
lentement.
C'est
non,
ça.
De rouler lentement.
De contrôler la
vitesse.
J'aurais
pas la force pour rouler lentement.
Ouais. Donc, faut se connaître.
Vous allez vous regarder ou vous n'aimez pas vous regarder comme 90%
je suis pas
des comédiens?
Je vais regarder, mais j'ai vu, alors curieusement, Mirage, je dis pas ça parce que c'est ce que je suis venu vous dire de regarder lundi prochain, mais je l'ai regardé. Deux fois. Les 6 épisodes, je les ai regardés 2 fois entièrement. C'est-à-dire que tout, quoi. Tout.
En
je
VO.
Trouve ça super.
En VO.
En VO, sous-titré français. Voilà.
Elle est comment votre voix?
En anglais, vous voulez dire?
Ouais.
Je sais pas. J'ai beaucoup travaillé parce que c'est pas du tout une facilité pour moi de travailler en anglais. Même si j'ai fait pas mal de films en anglais, je dois travailler. Donc j'ai travaillé. Et je pense que c'est pas mal.
Prochain projet, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez tourner?
Je pars mardi à l'étranger pour tourner un film et je ne peux pas en dire plus.
On sait juste que c'est un film.
C'est un film pour le cinéma.
D'accord. Il va sortir, il va être dans quelle langue?
En anglais aussi.
D'accord.
C'est un film anglais.
D'accord. Avec un réalisateur connu?
Réalisateur que moi je connais aussi, qui est connu.
D'accord. Ouais. Non mais encore heureux que vous le connaissiez.
Non mais j'ai déjà travaillé avec lui.
Ah d'accord. Mais c'est pas Spielberg?
Non. Non.
D'accord. Comment vous choisissez vos films? Je vous pose la question parce que vous avez dit j'ai aucune stratégie.
Non, aucune.
Ça veut dire quoi? J'ai aucune stratégie.
Ça dépend. Par exemple, j'ai un petit film canadien-anglais que j'ai tourné l'année dernière.
Ouais.
Et par exemple, ils m'ont approché en m'envoyant le scénar et en m'expliquant qui était dans le film. Donc, il y avait Cronenberg, Tuppence Middleton et Anna Gross que j'avais découvert dans Mindhunter, une série aussi que j'ai beaucoup aimée. Et donc, quand j'ai vu cette bande de gens, j'ai dit, et un producteur que je connaissais, Neil Fishman. Donc après, j'ai dit, oui, je crois que ça va être, à moins que le rôle ne me plaise pas, mais je crois que ça va être bien. Donc après, ça dépend. Des fois, c'est plus l'histoire, des fois, c'est plus le rôle. rôles, des fois c'est les gens. Enfin, c'est, je les choisis en fonction de mon désir.
Voilà. Et vous êtes calmée ou pas ?
Comment ça ?
Parce qu'avant, vous aviez la réputation d'être colérique. Maintenant, vous n'avez plus cette réputation.
D'être colérique ? Non, je ne suis pas colérique, je suis cash. Enfin, je ne sais pas colère.
Alors, hein, c'est pas moi en train de critiquer. Rien, moi, j'aime tellement les gens francs pas, que moi, j'adore.
Mais disons que j'aime mieux dire les choses plutôt que de ne pas les dire. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi il faut mettre des gants pour dire les choses. Moi, j'aime bien qu'on me parle normalement et je parle normalement aux gens. Donc, c'est vrai que comme tout le monde enrobe tout avec beaucoup de miel et beaucoup de. Mettre beaucoup d'efforts à bien paraître. Moi, je n'ai pas ces soucis de bien paraître. Je ne sais pas d'où ça me vient, cette idée-là. Ma mère qui m'a élevée, elle était comme ça. Ma mère adoptive, elle était comme ça. Je crois que c'est elle qui m'a insufflé cette espèce de franchise, on va dire. C'est pas pour autant que je veux faire du mal ou que je vais dire des choses blessantes. Mais dans le travail, j'ai tendance à dire les choses parce que je crois qu'on n'avance pas autrement.
En parlant de dire les choses, vous irez le 28 à la soirée des Césars ?
Non, parce que je serai pas là, je serai en tournage.
D'accord, c'est pas un choix pour idéologique à cause de l'affaire Polanski et tout ça, et MeToo.
Mais non, pas du tout. Non, moi, je ne comprends pas cette affaire-là, de toute façon. Donc, je ne comprends pas les hordes de gens qui empêchent Polanski de montrer son film, par exemple.
Pourquoi expliquer ?
Pourquoi ? Parce que je crois que... Comment dire ? Je crois que le film est vraiment excellent. Moi, je l'ai vu. Je crois que c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, ce que Polanski a vécu dans sa vie, et lui, l'artiste. Enfin, moi, je fais la distinction entre l'artiste et l'homme. Et donc, je... Voilà, quoi. C'est pas mon trip. De condamner au niveau, parmi, à travers les médias et à travers tout ça, les gens, quoi. C'est à la justice de le faire. Et puis là, bon, apparemment, c'est plaignante. Ce sont la principale plaignante. Si je ne m'abuse, parce que là, vous me demandez de parler d'une histoire que moi, ce n'est pas mon métier, mais moi, je pense que la fille a même pardonné elle-même à Roman Polanski ce qui s'est passé avec lui il y a 30 ans. Donc, je ne comprends pas les gens qui veulent l'empêcher de se rendre au théâtre ou de...
Ouais, voilà. Je crois même que c'était il y a plus de 30 ans. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Marie-Josée Croze. Je rappelle, la série Mirage, c'est ce soir sur France 2. C'est 6 épisodes de 52 minutes. Et surtout, on peut les voir en français, mais surtout en anglais, de la manière dont vous l'avez tourné. Merci, j'ai dit ce soir, non, c'est lundi.
Non, c'est lundi. Lundi
à 21h. Il y aura deux épisodes.
Sur France 2.
Merci beaucoup. Merci Angèle. On vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre chat. Merci Clément. Pareillement, beaucoup de bonheur avec vos jeux vidéo. Merci Justine, vous serez là demain.
Exactement.
Justine Holman. Nous, on se retrouve demain. Donc à 9h avec Justine pour Culture Média. Nous serons avec Sandrine Quétier qui vient pour le téléfilm Meurtre dans le Jura, département 39, sur France 3, et Valérie Zetoun, le producteur des Vieilles Canailles. On va parler des Victoires de la musique. Je vous dis à demain, bonne journée sur Europe 1.
Merci Philippe Vandel, restez avec nous. Anne Romanoff arrive dans un instant avec son équipe. Elle reçoit aujourd'hui Lionel Florence et Max Mobile.